Raison gardée sur RCN avec la libre pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Raison gardée. Merci à RCN de nous accueillir sur son antenne pour une nouvelle émission. Avec moi aujourd'hui Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude.
Salut Sylvie.
Et Charles.
Bonjour.
Eh bien écoutez, on est sur la fin de l'année, au moment où nous enregistrons. Et peut-être que c'est tombé, parce que je suis rentrée en studio il y a quelques temps. Il va y avoir les sentences concernant l'assassinat de Samuel Paty. Donc j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Je proposerai de reparler un peu à la lumière d'une recension d'un ouvrage qui a été fait par les camarades de la Libre Pensée. Reparler un petit peu de ces histoires d'images en islam, etc. Ce qui est quand même un peu le point de départ de cette tragédie d'une collègue Samuel Paty. Et puis, comme j'ai vu aussi dans la presse locale que du côté de tous les Crouves, il y avait eu quelques petites tensions liées à une église évangélique, ça m'a donné envie un peu de me pencher sur la question. Et il se trouve que le monde diplomatique a fait un très très grand article sur le sujet, dont on pourra parler un petit peu. Mais toi Charles, tu m'as dit que tu voulais parler de Notre-Dame de Paris. Tu n'as pas aimé la belle cérémonie
Si, mais il manquait...
Et je ne l'ai même pas regardé.
Avec l'odeur de l'encens, tout ça, non.
Pas de pouvoir mettre chez toi devant ton écran.
C'est surtout le comportement d'un président de la République qui est normalement une république laïque, la France. Voilà, donc Macron, une nouvelle fois, a renouvelé... son approche de la laïcité qui est tout à fait contraire à la loi 1905, notamment la reconnaissance d'aucun culte. Il avait déjà commencé chez les Bernardins il y a quelques années, il voulait réparer les liens sacrés de l'Église. Voilà, donc c'est d'une continuité chez Macron. Et le plus qui me heurte et qui heurte tous les gens qui sont sensibles à la laïcité et à la loi 1905, il était donc à Notre-Dame le 7 et le 8, la veille de l'anniversaire de la promulgation de la loi 1905. C'est pour moi une provocation quasiment, quoi.
Tu crois que c'est une coïncidence?
Oui, bien sûr.
Oh là là, tu lui attribues de mauvaises pensées.
Voilà, puis on attribue aussi la reconstruction de l'église, qui est magnifique, bien sûr, à des dons privés, et que l'État n'avait sûrement pas engagé d'argent. Il faut savoir que les dons privés vont quand même bénéficier de déductions fiscales, donc j'ai payé ma part aussi.
Oui,
tous
exactement.
Les Français ont payé leur part à reconstruction de la cathédrale, vu que les dons vont être déductibles. Je fais confiance surtout au milliardaire qui a été promu... quand même un des hommes les plus riches de France, de bien retoucher pour ses différentes actions...
C'est Bernard Arnault.
Voilà. C'est magnifique quand même, ça, quand même. Même le denier du culte, hein, faut savoir que le denier du culte, pour les gens imposables, ils retouchent quand même ça comme un don, alors que ça, je suis contre ça, bien sûr. Mais bon, après, ils vont dire, mais la loi 1901, les associations, oui, mais bon, mais est-ce qu'on est une république laïque ou est-ce qu'on est une république religieuse?
Oui, c'est vrai. On avait fait une émission à propos de ces lois d'association culturelle, cultuelle, et la confusion parfois sur laquelle jouent certains pour pouvoir...
Tous les cultes, hein. On peut parler aussi pour les constructions des nouvelles mosquées, où il y a sous prétexte culturel, on arrive à avoir un permis construire avec la complicité des élus. Il y a une bibliothèque, il y a une garderie pour les enfants, donc c'est...
Culturel.
Que c'est culturel, voilà. Non, mais que nous prendrions pour les enfants de cœur quand même. Hein.
Jean-Claude.
Charles a son habitude... À ses obsessions, d'ailleurs on a les mêmes, hein, probablement.
C'est pas une obsession, c'est une remise à jour quand même, une remise à plat de la laïcité.
Il me semble pas me tromper en disant que Macron est chanoine de Latran.
En plus.
Et il a un titre comme ça,
bien sûr. Comme tous les cultes. Mais tous les présidents de la République, sont chanoines. Enfin, ils peuvent ne pas se rendre à la cérémonie lors de laquelle ils sont censés recevoir.
En tout cas, depuis longtemps, les présidents de la République n'ont jamais... renier ce titre qu'ils avaient. Donc, que Macron soit à la manœuvre en ce moment. C'est... Bon. On se connaît tous, hein, on sait à quel point on est athée ou libre-penseur. Mais le jour où j'ai vu la cathédrale Notre-Dame cramée, j'en étais malade. Et là, on sait très bien qu'il y a nombre de Français qui n'ont pas du tout de conviction religieuse, qui étaient, comme moi, malades de voir ce monument. Hein. C'est quand même un patrimoine extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont donné de l'argent, qui ont récupéré. Bon, ben, moi, ça ne me choque pas. Ce que je me dis simplement, c'est que, ben non, ils font des dons. C'est vrai pour le Téléthon, c'est vrai pour un tas de personnes qui font des dons. Ils récupèrent. En partie, quand leurs associations sont reconnues d'utilité publique, ils récupèrent de l'argent. Je ne sais pas si, par exemple, la Libre Pensée est reconnue d'utilité publique.
Bien sûr que si.
Si, et ben alors, tu vois, si je donne de l'argent...
Le problème, là, on joue sur les mots quand même. Mais on ne reconnaît aucun culte, donc on ne finance aucun culte. On finance un culte. Après...
Non.
Oui, c'est le monument...
Ah non. Enfin, ça, c'est marrant parce que moi, je ne fais pas beaucoup de cadeaux là-dessus. Mais ça, c'est le patrimoine.
Oui.
Y a d'autres édifices religieux qu'il faut absolument préserver. Ce que je me dis aujourd'hui, vous savez que depuis la loi de 1905, les églises sont propriétés de l'État pour celles qui étaient construites avant la loi de 1905. Elles sont privées après la loi de 1905. Ça veut dire que dans des petits villages, je pense à un petit village où mon frangin habite... Vatronville, à côté de Verdun, ils ont, je crois, le curé doit avoir 14 ou 15 paroisses à desservir. C'est-à-dire qu'il y a au mieux une messe par an ou deux par an.
Ça arrive très fréquemment.
Ouais. Et le problème, c'est que ces petites communes, qui sont des communes pas argentées du tout, elles ont un mal de chien à entretenir le patrimoine. Et moi, ce que je me dis, c'est que de temps en temps, il y a des églises qui ont une valeur patrimoniale évidente, et il faut les entretenir. Et il y en a d'autres, on pourrait, ce qu'ont fait le Canada et d'autres pays, hein, les désacraliser et les utiliser à d'autres fins. Moi, je me souviens au Canada avoir vu une église, une belle église d'ailleurs, qui avait été transformée en bibliothèque. Elle était magnifique. Et ça, je pense qu'on devrait y penser parce qu'on met à la charge des communes des frais qui sont importants, auxquels ils ne peuvent pas toujours faire face.
C'est vrai que c'est dramatique. Il y en a vraiment, c'est de l'art. Hein. C'est vraiment des monuments qui devraient être impérissables. Mais ça devrait être à la charge uniquement des croyants, pour moi. Mais la loi 1905 a fait que ces monuments sont classés monuments historiques. Donc toutes les églises monuments historiques, bien sûr que c'est à l'état de... Moi, c'était la boutade que j'ai. Il y a quand même un traitement en France de l'église catholique qui est quand même supérieur à celle des autres cultes. Hein.
Oui, bon. Mais ça, c'est l'histoire.
Non, mais c'est pas que l'histoire. On est une république où tout le monde, où il y a une égalité. Que les petites communes, et ça, c'est vrai qu'ils ils peuvent pas entretenir eux-mêmes les églises du fait que les budgets sont insuffisants. Et le problème, c'est qu'il y a aussi la pratique. On ne peut pas non plus obliger les gens qui n'ont pas envie d'aller à l'église de payer une église dans laquelle ils ne foutent pas les pieds.
Charles, les églises en France sont... Pas toutes et de loin classées monuments historiques. C'est deux choses.
Ah, bah oui, ça je sais.
Il y en a plein qui ne le sont pas, d'ailleurs.
Ah, mais, tu te fais l'avocat du diable.
Mais de temps en temps, oui, pourquoi pas.
Fais l'avocat du diable. Je vais t'exorciser.
Je l'accepte volontiers.
Je suis curieuse de voir ça.
Monseigneur Charles-Henri.
Bon. C'est vrai, ce que tu veux dire, c'est que de fait, les contribuables voient une partie de leur argent servir à l'entretien d'églises qui ne servent qu'au culte, en fait. Voilà, sont pas forcément
un enterrement ou deux dans l'année. J'ai des églises dans les villages, et il n'y a même pratiquement plus de baptême. Pratiquement plus de mariage religieux. Enfin, c'est vraiment devenu anecdotique. Le problème, c'est les salles pour les funérailles. Donc, là, beaucoup utilisent l'église pour les funérailles. Il faut savoir quand même que les communes doivent fournir une salle pour les funérailles républicaines. Ça ne se fait pas partout.
Non, c'est une proposition de loi qu'il y a eu. Elle a failli être votée. Mmh. Elle ne l'a pas été tellement elle était amendée. Ce qu'on demandait, nous, c'était que, précisément, les chrétiens, les catholiques, peuvent avoir accès, c'est normal d'ailleurs, à l'église, à la cure, etc., quand il s'agit de faire des cérémonies crématistes ou pas, enfin, parce que maintenant, l'église accepte la crémation. On avait demandé à ce que soit mise gratuitement à disposition de ceux qui le demandaient, dans chaque commune, une salle. Ça n'est pas passé, c'est bien dommage. C'est d'ailleurs pour ça que quand j'étais au crématorium de Nancy, j'avais demandé, avec beaucoup d'insistance, et on l'a eu, la création d'une salle dite de convivialité, de façon à ce qu'on mette tout le monde à égalité. Et on l'avait bien dit d'ailleurs, dans un esprit très large, ça ne servira pas que pour les crémations, pourquoi pas l'utiliser pour des inhumations. Mais en même temps, moi j'avais demandé ce que ça soit accès libre, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Mais bon, quand même.
Ah oui, c'est quand même bien dommage qu'il y ait beaucoup d'églises qui ne sont pas entretenues correctement parce que architecturellement, au niveau de l'art, elles devraient être impérissables. Mais il y a quand même d'autres religions qui cherchent à l'heure actuelle des lieux pour pratiquer un culte. Et il y en a qui se rabattent sur une discothèque, paraît-il, dans le coin pour pratiquer leur culte. Mais ils le pratiquent déjà depuis un certain temps. Paraît-il que tous les dimanches, il y aurait une centaine de pratiquants, donc c'est une église évangélique.
Oui.
Donc c'est un sujet que Sylvie a abondamment travaillé, donc je laisse la place à Sylvie.
Ah, tu veux te sortir de ce débat avec Jean-Claude, je te vois.
Non, mais on reprendra ça avec un verre de vin.
avec modération.
Mais bien sûr.
Je suis obligée
du vin de messe. Hein.
Mais c'est vrai. Alors c'est vrai. Donc il y a une église évangélique qui avait demandé la possibilité de faire des travaux. Alors tu dis dans une boîte de nuit, dans une ancienne boîte de nuit, bien sûr. Il ne s'agissait pas d'utiliser le jour la boîte de nuit pour des activités religieuses et faire la bamboche, oui. Comme le disait un ancien ministre, la nuit venue. Oui, il y a eu des tensions dont la presse locale s'est fait le relais qu'elle a exposé. Et je ne sais pas si nos auditeurs avaient entendu cette émission. On avait parlé des évangélistes avec des évangéliques avec notre camarade Jean-Luc à ce micro, qui lui nous racontait leur développement vraiment exponentiel au Brésil. Et justement, alors le hasard fait bien les choses, le monde diplomatique a ce mois-ci, si je ne me trompe pas, ou c'est le mois dernier, sorti un numéro sur cette église-là, donc, qui fait partie du protestantisme et qui se développe quand même pas mal en France. C'est sans doute l'église qui se développe le plus. Et qui se caractérise par, vu de l'extérieur, effectivement, par des cérémonies, des rites extrêmement festifs, qui s'avèrent assez attractifs pour les gens. Alors, l'article du Monde Diplo commence par évoquer deux situations, dans une église à Créteil, où on engage le fidèle à croire comme un petit enfant, dit-on, et puis on lui parle de son développement personnel, de se soumettre à Dieu, et puis de la nécessité aussi de faire du prosélytisme. C'est quelque chose qui revient assez souvent dans le discours de cette église-là. Et avec des chansons interprétées en live, avec des jeux de lumière, enfin quelque chose qui est assez, assez spectaculaire. Et une autre situation est évoquée, cette fois-ci à Marseille, dans un lieu qui, en revanche, n'est pas forcément un lieu très, très neuf ou très agréable. La journaliste dit qu'il est un peu défraîchi et que sont rassemblées des personnes pour le culte des assemblées de Dieu, avec des chansons, une femme au piano, un batteur, et puis des paroles qui sont projetées avec un système de karaoké. Donc c'est quelque chose, en tout cas moi personnellement, qui m'évoquait des images de rites outre-Atlantique en fait.
Le gospel, par
exemple. Voilà, exactement. Et donc qui se développe en France. Alors il y aurait... dans ce courant du protestantisme, en 2020, donc la journaliste donne quelques chiffres, entre 13 et 26% des Américains du Nord, entre 10 et 17% de ceux du Sud, et puis pareil, une moyenne de 15% d'Africains et de 15% d'Océaniens qui sont concernés par ce courant protestant. Et alors qu'il faut... qui sont bien évangéliques et pas évangélistes. Je crois que je me suis trompée assez souvent en parlant par ailleurs. Mais on dit bien les églises évangéliques. Et c'est une religion donc, qui est liée au protestantisme, dont on connaît la source, hein, la réforme au XVIe siècle, qui en France ne s'était pas particulièrement développée jusque-là. Cette église évangélique, je vais y arriver. Elle connaît beaucoup d'autres églises qui portent donc des noms. Enfin, il y a des, comme souvent, enfin comme chez les chrétiens, il y a les catholiques, les protestants, les orthodoxes, enfin voilà, il y en a de toutes sortes là aussi. Et il y a eu surtout aux États-Unis des pasteurs qui au moment où la télévision s'est abondamment développée, ont utilisé ce moyen-là de se faire connaître. Et alors je ne m'en souvenais pas, Roland Barthes lui-même, dans son fameux recueil Mythologie, qui date de 1957, évoquait un show d'un pasteur de cette église. Alors déjà en 1957, donc il y avait déjà eu un phénomène qui avait été observé. Et les spécialistes disent que la France, allant vers quand même une laïcisation de sa société, a peut-être été moins sensible au développement de cette église-là que d'autres. Et puis ce qu'ils disent aussi souvent, c'est que ce sont qu'il y a eu des missionnaires et des pasteurs très charismatiques, et que toute la dimension très conviviale, cette idée d'une communauté chaleureuse, prête à accueillir tous les croyants, a beaucoup séduit des gens issus de l'immigration, qui ont trouvé de l'aide, du soutien, une famille de substitution en quelque sorte, et qui ont pu contribuer ici ou là dans le monde à son développement. Je ne sais pas si vous, c'est une église que vous connaissez, si vous connaissez des gens qui pratiquent...
Non, ce qui était le plus connu avant au niveau évangélique, c'était les Témoins de Jéhovah, parce que eux, vraiment, au niveau prosélytisme, ils sont assez présents porte à porte ou dans les... Et nous, les évangéliques, ça fait pas très longtemps qu'on entend parler en France. Ils étaient encore assez discrets jusqu'à ces derniers temps. Je pense que l'Église catholique a perdu beaucoup de terrain et a du mal à regagner du fait de tous les problèmes qu'elle a connus au niveau de ne pas faire le ménage chez elle, et puis d'avoir soutenu, je pense aussi en partie par les personnes qui viennent d'Afrique ou d'autres pays colonisés, le catholicisme, c'est quand même la religion des possédants et des colons. Je pense que ça aussi, ça a été un rejet de cette religion-là. Et aussi le rituel qui est beaucoup plus festif chez les évangéliques. Il y a des églises qui existent depuis longtemps dans les quartiers de Nancy qui se disent évangéliques, hein, mais c'est une pratique qui est assez faible quand même. Mais surtout dans les quartiers populaires. Hein, ça touche quand même qu'une partie de la population, et souvent issue d'immigration. Ou des Antillais aussi, pas mal. Ils sont très discrets. Hein, et pour le moment, ils n'en sont pas. Et ce qui est le danger, c'est que viendrait de ce qui se passe, comme a dit Jean-Luc, au Brésil, ou du fait qu'ils soutiennent politiquement, ils sont très influents au niveau politique, ils soutiennent des dictateurs comme Bolsonaro, et là, ils ont aidé à élire Trump, c'était dit, hein, puis de toute façon, ça sont croyants. Et il y a une église aussi, à un moment donné, où on parlait beaucoup, mais je ne sais pas quelle influence elle a en France au niveau de la pratique, mais qui a un grand temple à côté du Stade de France, qui a été inauguré juste avant les Jeux Olympiques, c'est la Scientologie, qui a inspiré aussi de la Bible, toutes ces choses-là, qui sont aussi, eux, avec énormément de moyens, si tu veux. Et là, plutôt, la Scientologie, elle touche un milieu un peu plus élevé, notamment dans le cinéma, dans les arts, aux États-Unis, ils sont très influents, et représentés par des vedettes comme Tom Cruise, par exemple, ou d'autres. Hein. Et c'est... ça devient inquiétant pour certaines choses, mais il y a une chose qui... Ça touche quand même qu'une infime... Le retour religieux se fait quand même pas énormément. Après, peut-être le Covid, il y a eu maintenant, là, comme on a surtout Macron a favorisé avec Blanquer là, le culte, pas le culte, mais les églises privées et tout ça. Mmh. Et dans les églises privées, moi, je vois tous les enfants qui n'étaient pas baptisés, qui sont fréquentés à l'école privée, se font baptiser. Bon, ils choisissent, hein. Ils ont 12, 13, 14 ans. Mais là, il y a un retour dans le privé où il y a une élite qui prétend être l'élite. Retourne au baptême, mais ça me fait assez marrer parce que les mômes, ils vivent quand même un peu comme les mômes de maintenant, hein, c'est assez lâche, mais ils le font pour faire comme tout le monde et pour faire partie de l'élite, quoi.
Par conformisme, tu penses un peu à...
Le religieux, il est, je trouve, beaucoup employé pour créer des réseaux, finalement.
C'est tout le problème du communautarisme. Hein. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, on aura l'occasion de consacrer une émission au communautarisme, au wokisme, parce que c'est des choses qui sont proches. Mais on aurait tort de considérer que là...
Ah, le wokisme, on en avait parlé, on avait essayé de démonter un petit peu ces accusations de wokisme.
Ouais. Moi, j'ai assisté à une conférence sur le wokisme remarquable. Et un jour, il faudrait que je vous envoie les textes, d'ailleurs, c'est fabuleux. Mais on aurait tort de croire que c'est nouveau, tout ça. On a toujours l'impression que c'est nouveau parce qu'on le découvre. Mais depuis la nuit des temps, j'aime pas trop cette expression, mais quand même, on a toujours eu des mouvements comme ça. Et d'ailleurs, au sein même du christianisme, on en a eu plein, tout le temps. Et donc, c'est un phénomène qui ressurgit régulièrement. Moi, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant. Peut-être la loi de 1905, la laïcité, nous a-t-elle effectivement protégé un peu de ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de pays qui n'en sont pas là, et même des pays modernes, hein, je pense l'Allemagne, tout ça. C'est possible. Et ça me paraît être une explication assez convaincante.
Je vous propose une première pause musicale avec une chanson que j'ai choisie un peu par malice.
Let me tell you about a girl I know. She is my baby and she lives next door. Before the sun comes up, she bathed my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know, I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me, Daddy, everything's all right. So I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, she kisses me and she holds me tight and tells me that everything's all right. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love her so. Oh, hallelujah. Don't you know I just love her so? She's my little woman, way across town. Babe, I'm a little fool for you, little girl.
On se retrouve
en studio,
en pleine discussion entre Charles et Jean-Claude qui parle de l'athéisme, de sa mort ou de son avenir, je ne sais pas, pendant que Ray Charles nous chantait sa version d'Alléluia. Alors, je vais dire aux auditeurs pourquoi vous
disputiez. Moi, je dis que l'athéisme est là devant soi, parce qu'on abrutit les populations avec des émissions de télévision, à commencer par les télévisions de Bolloré. L'athéisme est là de beau jour avec ça. Elle est morte.
Alors, Jean-Claude voulait rappeler que la Fédération de la Libre Pensée, nationalement et localement, n'est pas athée par définition. C'est-à-dire que nous, on est pour la liberté de conscience. Voilà. Après, dans nos statuts, il est quand même préciser que, à nos yeux, les religions ne sont pas émancipatrices, c'est-à-dire que
on est bien d'accord.
La croyance, à nos yeux, ne contribue pas à l'émancipation de l'individu. C'est pour ça que nous sommes très vigilants sur les conditions de notre vie en société pour que soient bien séparées les églises, toutes les églises. Et l'État. Après, effectivement, chacun est libre de son culte et de sa foi, mais nous, on a quand même, sur la question religieuse, une position bien nette.
Ah oui, mais moi, j'en doute pas. Simplement, il faut toujours se méfier. Moi, j'aime bien entendre les gens, nos adversaires, parce que ça permet de déguiser un peu nos arguments. Souvent, on entend dire qu'on est d'affreux connards qui bouffent du curé sans arrêt. Alors, ça nous fait plaisir, on aime bien, hein, Charles, franchement.
Mais, je pense que c'est indigeste, mais bon.
Mais en tout cas, c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est ce que vient de rappeler Sylvie. C'est-à-dire qu'on conçoit tout à fait une vraie liberté de culte, une vraie liberté de religion.
C'est écrit dans la loi.
Mais en même temps, on est attaché à des principes républicains qui ne se discutent pas, qui ne sont pas négociables, et notamment le principe de laïcité.
C'est pour ça aussi qu'on avait été vent debout contre la loi dite séparatisme, là, avec l'obligation faite aux associations de s'engager à respecter une sorte de pacte républicain, puisqu'on considérait que ça allait à l'encontre, justement, de liberté, par ailleurs défendue dans le cadre de la République elle-même. Donc, on n'était pas du tout favorable à ce genre de loi.
On est pour l'abrogation de cette loi. Oui. On est pour l'abrogation de la loi séparatisme. Revenons à la loi 1905, dans l'esprit de la loi 1905, qui a déjà bien été dégradée, notamment avec le financement des écoles privées.
Et puis on voit bien comment, puisque là nous sommes en fin d'année, certains maires qui sont très proches de l'extrême droite, quand ils n'ont pas les deux pieds dedans, s'amusent à réinstaller des crèches
tous les ans.
Oui, il y a même eu sur les chaînes de Bolloré, je crois, une sorte d'appel par je ne sais plus quel animateur qui se plaisait à dire mais oui, mais qu'on mette des crèches, on les embête, etc. Alors que l'idée, c'est vrai que c'est la libre pensée notamment qui souvent porte ce genre de combat, mais c'est pas un combat d'arrière-garde, ni un combat ridicule, c'est une façon de rappeler que la mairie c'est la maison commune, et qu'il n'y a aucune raison, ni juste devant la porte de la mairie, ni juste dans le hall d'entrée, de vouloir mettre à l'honneur en particulier une religion. Les cultes, les rites liés aux fins d'année, à la nuit qui s'allonge, etc., on avait aussi fait une émission là-dessus, sur la dimension païenne de ces rites-là, qu'on trouve dans plein de civilisations et de cultures très différentes, et les monothéismes ont embrayé sur des rites qui étaient déjà installés, même l'iconographie est inspirée des iconographies existantes, ça c'est assez facile à démontrer, maintenant les historiens sont capables de le faire, mais justement dans la République française, dans l'État français, il n'y a aucune raison de mettre à l'honneur une religion, quand bien même elle était dominante en France pendant un certain temps.
Elle l'est toujours.
Mais officiellement, je veux dire, la monarchie, le droit divin, etc.
Moi, j'ai entendu dernièrement encore des gens qui disent mais c'est pas normal qu'on puisse pas installer une crèche dans une certaine région de France, parce que les crèches, ce serait culturel. Alors, je veux bien qu'il y ait des santons, mais pas une crèche. Je veux bien qu'il y ait des santons encore, mais encore, à la limite, toi. Alors, j'ai dit, ils jouent quand même toujours sur les mots là-dessus. Et quand tu as le maire de Béziers, il faut quand même qu'il y ait lui, quand même, ça hyper récidiviste là-dessus, et qui continue à mettre une crèche dans son église. Par contre, il y a aussi des polémiques avec les crèches qui sont installées dans les villages. Et ça, la loi, il n'y a pas de loi là-dessus. Ce qu'on peut intervenir, nous, on l'a déjà fait il y a déjà quelques temps, c'est qu'on écrivait au maire en disant que la crèche, elle n'a pas vraiment sa place sur la place du village, toute sa place, et toutes les crèches d'ailleurs ont leur place dans les églises, point. C'est tout.
Tu rappelais quelque chose de fondamental, c'est que les églises en général, les chrétiens comme les autres, se sont installés ils ont enfilé les pantoufles de tradition païenne. Il y en a une que je raconte toujours. On y arrive. C'est la Saint-Jean. On a deux Saint-Jean. C'est quand même un peu bizarre. On a Saint-Jean l'évangéliste, c'est la Saint-Jean d'hiver. Et on a la Saint-Jean-Baptiste, c'est la Saint-Jean d'été. Un peu bizarre d'avoir deux Saint-Jean dans l'année. Et elle se trouve où? Elle se trouve au solstice d'été et d'hiver. Alors ça, si ce n'est pas une preuve évidente, même pas discutable, d'adaptation du paganisme à la religion, je voudrais bien savoir comment on peut faire autrement. On a l'agneau pascal, par exemple. L'agneau pascal, donc. Mais moi, quand je vois des gens qui critiquent certaines pratiques, comme la scène, par exemple, c'est intéressant parce que la scène, elle existait bien avant les chrétiens. L'échange du pain et du vin, l'échange du pain et du sel dans certains coins. L'Église n'a jamais cessé de prendre, et même sur les lieux de culte. Il y a des tas d'églises, de monastères qui ont été créés sur les ruines d'anciens temples païens.
Bah, tous les calvaires en Bretagne, ça vient des dolmens et des menhirs, hein. Pratiquement.
Pour revenir à mon église évangélique, là, c'est quand même une église qui se caractérise par un prosélytisme tout à fait revendiqué. Hein. Et on va reparler du lien avec les politiques, parce qu'elle en parle justement de la journaliste qui a fait l'article dans le Monde Diplo. Mais elle disait aussi que d'un point de vue très, très concret, très pratique, ils savent aussi séduire. Par exemple, ils vont être sur les réseaux sociaux pour attirer des jeunes, et puis ils vont proposer des moments de musique très conviviaux. Aux populations migrantes, ils vont proposer leur soutien. Ils ont aussi une lecture de la Bible qui est très orientée, alors ça c'est très bien, sur l'idée de l'égalité, d'aimer son prochain comme soi-même, etc. Ils ont une approche des textes qui portent des valeurs auxquelles les gens peuvent bien sûr adhérer. Mais par exemple, il y a quand même des prières de guérison et... on a pu entendre des pasteurs de cette église dire qu'il faut prier pour guérir, quoi. Donc qu'il y a une croyance au miracle, etc., qui elle en revanche peut être dangereuse pour la santé des gens. Et comment ça s'appelle, la Mivilude a remarqué que par rapport à la proportion des croyants des églises évangéliques, il y avait quand même beaucoup de signalements de situations particulières qui leur étaient remontées.
Plus de la maltraitance.
Statistiquement que pour les autres religions. Et notamment aussi sur la question de la conversion des homosexuels.
Ouais, exactement.
Leur discours est un peu alarmant, on va dire. Et c'est un euphémisme. Oui.
Il y avait une émission, c'est hier ou avant-hier, sur Arte, je crois, sur le Portugal. Passionnante. Où on parlait de la magie. On a l'impression, tout le monde pense que la magie, c'était le Moyen-Âge. C'est pas vrai. La magie existe encore, y compris en France, d'ailleurs. Moins, bien sûr. Ça a été le cas dans le bocage vendéen. Il y a eu des articles et des bouquins très intéressants qui ont été écrits. Au Portugal, jusqu'en 1980, dans les années 80, c'est-à-dire il y a 20 ou 30 ans, hein, il y avait encore des pratiques magiques. Et certaines personnes qui étaient malades, elles préféraient aller voir le magicien du coin, le sorcier.
Le guérisseur.
Plutôt, oui. Et d'ailleurs, on sait très bien que dans certains cas, ça pouvait marcher. On sait très bien que c'est de façon très, très marginale. Hein, parce que je rappelais, je ne sais pas si c'était ici que j'avais rappelé un truc. Quand quelqu'un va à Lourdes et qui a un problème de santé, on ne peut pas nier qu'il y en a qui sont revenus en disant « ça y est, je suis guéri ». Il y a une étude fort intéressante qui a été faite sur le nombre de ce qu'on appelle les guérisons inexpliquées dans les hôpitaux. On sait qu'il y a à 2, près le même nombre de guérisons inexpliquées dans les hôpitaux, ça existe, les médecins disent bah, ça y est, il est guéri, on ne sait pas pourquoi, que le nombre de miracles reconnus par l'Église. Donc c'est assez amusant, c'est assez intéressant de voir ça. D'un côté, il y a la raison, puisque bon, la libre-pensée, quand même, on est des gens rationnels, fait appel à la raison, et puis il y a de l'autre côté la sorcellerie. Mais la sorcellerie dans le bocage vendéen, il y a encore 50 ans, c'était très, très vivace.
Entre les deux, il y a la psychologie, hein, quand même. Et je pense que l'humain est capable de la méthode Coué, les placebos. On sait aussi scientifiquement expliquer comment ça fonctionne.
Absolument.
Ben, quand on est à bout de tous les traitements, tout ça, on peut comprendre qu'on essaye quand même un peu l'irrationnel. Pour parler d'irrationnel, il n'y a pas si longtemps que ça, mais je ne sais pas s'il y en a encore, l'Église catholique avait des prêtres exorciseurs.
exorciseur, et dont le pape Benoît XIV, c'était un exorciste.
Mais je crois que ça se pratique encore. Mais j'ai pas
je crois qu'il y a toute la fonction.
L'Église a quand même pris ses distances avec l'exorcisme récemment.
Et c'était quand même attaché à l'évêché. Hein.
Oui,
il y en a
bien
eu
sûr.
Il y en avait à Nancy. Hein.
Mais il y en a eu partout. Mais l'Église a pris ses distances là-dessus. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps. Il y a quand même... Ce n'est pas un courant rationaliste qui traverse l'Église. Ce n'est pas ce que je veux dire. Mais il y a des choses Il y a des choses qu'on n'avale plus aussi facilement. Au Moyen-Âge, on faisait peur à tout le monde avec le diable, avec l'enfer. Quand je pense, par exemple, qu'on expliquait que des enfants qui n'avaient pas été, parce qu'ils étaient morts-nés ou morts à la naissance, qui n'avaient pas été baptisés, ne pouvaient pas aller au paradis. Ils étaient condamnés au limbe.
Ils n'étaient pas enterrés dans les cimetières non plus.
Oui, et ils étaient entre l'enfer et le paradis. Ça, par exemple, on voit bien que de temps en temps, ça bouge un peu. L'Église, il y a quelques années, a dit non, c'est fini. Ces gosses-là, ils sont trop au paradis. Donc, on voit bien que ça bouge un peu.
Oui, non, mais c'est sûr qu'il y a quand même...
Il faut bien récupérer un peu de clientèle. Hein.
J'allais dire que le discours s'adapte un peu à sa clientèle, c'est ce que j'allais dire. Mais ça n'empêche que... Les dangers sont plus de fond, quoi, d'accepter finalement une situation en se disant que heureux les derniers seront les premiers, etc. Voilà, il y a quand même des pensées qui traversent parfois ces églises-là et qui ne sont pas forcément très porteuses pour l'individu.
Il y a quand même une remarque que faisait Charles tout à l'heure. On parle par exemple de l'islam. On dit qu'ils ont une pratique religieuse supérieure à la nôtre, ce qui est vrai d'ailleurs. Bon. Mais Charles disait, je ne trahis pas ta pensée, les jeunes musulmans, qui ne sont pas forcément des intégristes, hein, les jeunes musulmans, ils vivent dans des familles musulmanes, mais ils ont des portables, ils vont en boîte, ils boivent de l'alcool. Les choses changent aussi là-dessus parce qu'il y a une évolution de la société. Et c'est pour ça que ces dangers, il faut les pointer, il faut s'en préoccuper. Mais moi, je n'arrive pas à être terrorisé par ça, parce que je pense que ça restera marginal.
Je ne suis pas sûr, parce qu'il y a un manque culturel quand même. La France est quand même le pays des Lumières. Je pense qu'au niveau de l'enseignement, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui manquent dans l'enseignement public à ce niveau pour éclairer un peu la réflexion et aussi l'analyse des choses. Pour ne pas sombrer dans l'irrationnel, si tu veux. Moi, ce qui est inquiétant dans la pratique religieuse qui commence à être un peu folklorique, mais qui est quand même importante, comme les évangéliques, c'est que plus ça va aller mal au niveau sociétal, plus ils vont avoir de la clientèle qui va se réfugier dans une religion ou dans une croyance. Et ça sera la plus attractive qui va les capter. Et la plus attractive pour le moment, ça va être avec les chants, avec l'Internet et les missionnaires. Parce que moi, je les vois, il y a un Nancy de plus en plus, je les vois en costume gris avec leurs petites plaques, avec leur identité, qui viennent et qui font du prosélytisme, qui font du porte-à-porte et tout ça. Et c'est comme les témoins de Jéhovah. Ils vont tomber sur des personnes qui a vraiment, je sais pas, qui est dans la peine ou qui a des choses comme ça. Et eux, ils vont être à l'écoute, ils vont leur dire que Dieu va les sauver. Il y a une puissance incroyable sur quand les gens sont en faiblesse et qu'ils sont un peu perdus, quoi. Et ça manque. Je pense que si les gens étaient un peu plus instruits, un peu plus de rationalité, quand on voit supprimer la philo ou des choses comme ça, ça c'est quand même assez effrayant. Ça permet quand même l'instruction permet quand même de faire la part des choses, quoi.
Ouais, au risque de me tromper. Moi, je ne suis pas foncièrement optimiste d'habitude. Mais sur ce sujet-là, je le suis. Pourquoi ? Si on regarde l'évolution sociale, l'évolution des sociétés, en France comme ailleurs, je parlais du Moyen-Âge tout à l'heure, on brûlait des sorcières, etc. On ne brûle plus de sorcières, parce que ça coûte trop cher maintenant, c'est le coût de l'énergie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est allé toujours un peu plus vers des libertés. Je pense même, on a une vision qui est un petit peu centrée. On a l'impression que le progrès, il doit être continu comme ça. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des avancées, il y a des reculs.
Mais il peut être intéressant quand même de voir quelles sont les raisons pour lesquelles, sur certains sujets, les choses ont du mal à avancer.
Ah, mais absolument.
Par exemple, au sein de ces églises évangéliques, donc qui sont plurielles, qui sont diverses, il y a dans l'article, elle parle du Conseil national des évangéliques français, donc qui est une structure qui rassemble certaines de ces églises. Ils expriment quand même des positions, par exemple, et sur un sujet qui, je sais, te touche beaucoup, Jean-Claude, on l'a parlé la dernière fois à ce micro, mais par exemple, ils défendent la doctrine chrétienne du péché, du couple et de la famille, on sait bien ce que ça veut dire, et ils dénoncent tout acte donnant la mort. On voit bien aussi ce que ça veut dire, par exemple, quand dans la société, on veut parler de changer la loi, de mourir dans la dignité, de réfléchir à une loi qui encadre l'euthanasie ou le suicide assisté. Et ce conseil-là a un service pastoral auprès des parlementaires. Donc ça veut dire qu'ils font du lobbying. Alors bien sûr, c'est marginal, etc. Mais ça a été aussi quand même une église qui va croissant. Et de manière générale, il est toujours intéressant quand même de bien comprendre que ces lobbies existent et qu'ils jouent quand même un rôle. Et que s'ils existent, c'est bien parce qu'ils espèrent pouvoir jouer un rôle et peser sur des élus.
Et ces lobbies ne sont pas nouveaux. Il y a une église qui s'appelle Saint-Nicolas du Chardonnay, qui n'est pas loin du Parlement, en France, ils ont un groupe de pression, c'est des lobbyistes, hein. C'est pas nouveau. Moi, ce qui m'incite à l'optimisme, c'est simplement que je vois que les évolutions sociales, elles se font lentement, elles se font pas toujours de façon linéaire, mais on y arrive toujours. On n'est pas très vieux, mais on a quand même connu l'époque où une femme était condamnée si elle utilisait la pilule abortive. Après, il y a eu l'avortement. L'avortement vient quand même.
Mais regarde aux États-Unis,
on n'est pas aux États-Unis.
Les lois sur l'avortement. Ah oui, non, mais tu vois, dans l'absolu, quand même, le progrès n'est pas toujours non plus une grande marche vers quelque chose de mieux pour tous.
Hein, c'est ce que je disais. C'est
remis en cause en permanence.
Oui, mais moi, si je pouvais éviter de revenir en arrière, si tu veux.
En Pologne,
de mon vivant et pour les filles d'après moi.
En Pologne. En Hongrie, dans pas le pays du monde où les lobbies religieux sont contre l'avortement et ils sont influents au niveau des politiques. La preuve, elle en est là. Nous, on est bloqués complètement avec ça. Tant qu'un président de la République qui va toujours faire des génifections au Vatican, prendre ses ordres au Vatican, on n'avancera pas. Quand il y a des lobbies comme les poissons roses, ils n'existent plus à une époque quand même, qui avaient ses entrées au Vatican. C'est quoi la République pour eux ? Ils ne méritent pas d'être républicains.
Je pense que c'est le moment de faire une pause de mécréant. Avec Maxime Le Forestier qui nous chante du Brassens, le mécréant.
Est-il en notre temps rien de plus odieux, de plus désespérant que de ne pas croire en Dieu? Faudrait avoir la foi de mon charbonnier, qui est heureux comme un pape et con comme un panier. Mon voisin du dessus, un certain Blaise Pascal, m'a gentiment donné ce conseil amical. Mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire et bientôt vous croirez. Je me mis à dépiter les rotuleuses à terre, tous les Ave Maria, tous les Pater Noster. Dans les rues, les cafés, les trains, les autobus, tous les déprofondistes, tous les morbionibus. Sur ces entrefaites-là, trouvant dans les orties une soutane à ma taille, je m'en suis travesti. Et ton suré de frais, ma guitare à la main, vers la foi salvatrice, je me mis en chemin. Je tombais sur un boisseau, punaise de sacristie, me prenant pour un autre en querelle, m'ont dit. Mon père, chantez-nous donc quelques refrains sacrés, quelques saintes chansons dont vous avez le secret. Grattant avec ferveur les cordes sous mes doigts, j'entonnais le gorille avec putain de toi. Criant à l'imposteur, aux traîtres, aux papelards. Elles veulent me faire subir le supplice d'Abélard. Je vais grossir les rangs des muets du sérail. Les belles ne viendront plus se pendre à mon poitrail. Grâce à ma voix coupée, j'aurai la place de choix au milieu des petits chanteurs à la croix de bois. Attirée par le bruit, une dame de charité leur dit que faites-vous malheureuse, arrêtez. Il y a tant d'hommes aujourd'hui qui ont un penchant pervers à prendre obstinément Cupidon à l'envers. Tant d'hommes dépourvus de leurs virils appâts, à ceux qui en ont encore ne les enlevons pas. Ces arguments massus firent une grosse impression. On me laissa partir avec des ovations. Mais sur le chemin du ciel, je ne ferai plus un pas. La foi viendra d'elle-même ou elle ne viendra pas. Je n'ai jamais tué, jamais violé non plus. Il y a déjà quelque temps que je ne vole plus. Si l'Éternel existe, en fin de compte il voit que je me conduis guère plus mal que si j'avais la foi.
RCN, raison gardée, le dernier lundi du mois à 11h.
On se retrouve sur RCN. Alors, ce n'est pas du tout une version chantée par Maxime Le Forestier. Je me suis emmêlée dans mes fichiers. Mais ce n'est pas très grave, c'était quand même Brassens. Et ça fait toujours du bien. Donc, le débat continuait pendant que la chanson passait entre l'ami Charles et l'ami Jean-Claude. On parlait aujourd'hui quand même de certaines églises qui se développent. Et on échangeait sur le progrès, est-il linéaire, avance-t-il par à-coups, etc. Et alors on parlait aussi des médias pendant la diffusion de la chanson. Et toujours dans cet article qui traite de l'église évangélique, la journaliste soulignait quand même une stratégie médiatique aussi, et qui passe par qui, par où? Bah, par les chaînes de Bolloré, et donc par le réseau catholique de Bolloré. Donc voilà, restons quand même vigilants, parce que cet homme-là, il a quand même entre les mains des médias extrêmement puissants, qui devient difficile d'éviter, parce qu'il est propriétaire de radio et de
la presse,
et des chaînes télé et de
la presse papier. Hein.
Et mais ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. On vient de voir ce qui s'est passé en Roumanie, par exemple. C'en est un exemple frappant. La Roumanie a fini quand même par annuler l'élection qui avait eu lieu il y a quelques temps, parce que précisément, je pense que c'était TikTok d'ailleurs qui était mis en cause, il y avait un type complètement inconnu. Les élections arrivent, il obtient la majorité. Cherchez l'erreur. Hein. Et on voit bien que ça, c'est très dangereux, effectivement. Et il y a des stratégies certainement à mettre en œuvre pour essayer de lutter contre ça. Mais la presse reconnaît, la presse. Je regarde Mediapart souvent, Mediapart en parle de temps en temps en disant il faut, et il ne suffit pas de dénoncer en plus. Et on ne sait pas trop comment prendre ça. C'est un peu comme quand tu disais qu'ils les prennent par le chant, par la danse, par des trucs comme ça. Bah oui, on prend les gens par ce à quoi ils sont sensibles. Hein. Mmh. Et les médias, les réseaux sociaux, c'est remarquablement dangereux.
Bah, on sait comment on pourrait faire. Enfin, on connaît des mouvements politiques qui proposent des structures, ou en tout cas de faire fonctionner des structures existantes pour imposer vraiment un pluralisme d'opinion sur les chaînes de radio, de télé et dans la presse écrite. Alors pour le moment, si c'est 8, va bientôt être
interdit d'antenne. Ils vont perdre leur droit d'émission.
Leur droit d'émission, donc. Donc c'est quand même qu'il y a un problème qui est tout à fait identifié.
Il y a une réaction à l'heure actuelle. Moi, je viens de découvrir ça parce que je suis comme tout le monde. Je n'ai pas la science infuse. J'ai entendu parler, enfin j'ai lu dans Mediapart. D'ailleurs, on parle de mastodonte. Il faut que j'aille voir ça parce que Mediapart vient de rompre avec X. C'est un journal, donc ils avaient besoin de collaborer avec tous les réseaux sociaux. Mmh. Ils viennent de faire un article remarquable, d'ailleurs, où ils expliquent que c'est terminé, parce que pour eux, c'est intéressant, hein, ça ramène aussi de l'argent. Mmh. Mediapart refuse maintenant de travailler avec X. Et il donnait le nom de deux réseaux sociaux, dont Mastodon. Alors j'irai voir un peu. Je pense que du côté des journalistes aussi, il y a des gens qui essayent de lutter contre ça.
Bien sûr, heureusement, on est encore un pays où il y a encore un peu de liberté, même hein, au niveau de l'expression. Le problème de l'expression, c'est qu'elle est limitée par les moyens financiers. Et quand tu as des gens qui te bombardent sur les chaînes comme ça, c'est compliqué de lutter. Il faut savoir que les gens, maintenant, ils ne lisent plus beaucoup la presse papier. Ils utilisent beaucoup, une grande partie utilisent les réseaux sociaux. Et là, ils avalent ça à une vitesse incroyable. Et en plus, comme c'est la vérité. C'est comme quand j'entendais au début qu'il y avait la télévision dans nos patelins. Mais ils l'ont dit à la télé, hein, c'est que c'est ouais. vrai. Hein.
Je me demande si c'est pas avec toi que j'en parlais l'autre jour. Il y a un exemple fabuleux, très récent. Il y a eu une altercation entre des Israéliens, juifs, israéliens, bon... avec en Hollande, au cours d'un match de foot.
Mmh. Bon. Ah bah, le traitement médiatique...
Le traitement médiatique, ouais. C'est fantastique. On avait C8, BFM, etc. Ils montraient qu'une chose, c'était l'agression des supporters contre... Alors que sur les chaînes publiques, et au moins, il faut aussi protéger ça, on voyait que ça ne s'était pas du tout passé comme ça. Que les premiers qui avaient agressé, on le voyait par les images, c'était les Israéliens qui avaient arraché les drapeaux palestiniens, etc. On voit à quel point on peut manipuler l'information. Puis alors aujourd'hui, hein, quand vous voyez qu'on est capable de faire parler quelqu'un, les lèvres marchent parfaitement, on a vraiment l'impression que c'est la personne.
Du deepfake.
Du deepfake, et ça, c'est particulièrement dangereux. Hein.
Alors, il nous reste quelques minutes. Alors, allez savoir pourquoi on parle de Bolloré, je fais le lien avec l'extrême droite. Mais vraiment, allez savoir, je ne sais pas ce qui me passe par l'esprit. et je reviens à Nancy et au Grand Nancy pour des petites informations. Deux informations. La première, c'est que l'extrême droite radicale entend défiler dans les rues de Nancy le 5 janvier. Donc l'idée, c'est d'utiliser un prétexte un peu historique, c'est-à-dire de célébrer la bataille de Nancy. Et des groupes qui sont bien identifiés d'extrême droite envisagent de défiler dans la ville. Donc il y a bien sûr sans doute à suivre sur vos réseaux sociaux à venir une contre-manifestation. Un rassemblement pour exprimer le refus à Nancy de voir se répandre dans nos rues des gens qui véhiculent des idées de haine très très loin des valeurs que nous défendons. C'est une première chose. Et la semaine suivante, le 11 janvier, il y a une grosse manifestation qui s'organise à Toul pour demander que soit enlevée la fameuse, désormais tristement fameuse statue du général Bijard pour défendre là aussi d'autres valeurs et puis dire qu'en 2024, on ne peut pas héroïser un tortionnaire et un homme qui représente aussi ce que la France a pu commettre de pire dans les terres qu'elle avait, sur les terres qu'elle avait colonisées. Donc voilà, deux informations à retenir. Et puis peut-être que vous avez eu de quoi vous offrir quelques petits livres avec ce que vous avez eu en fin d'année. Et la Libre Pensée vous conseille, pour ceux qui s'intéressent aussi aux Lumières, à la Libre Pensée, mais en islam, il y a deux livres qui ont été l'objet d'articles dans notre mensuel qui s'appelle La Raison, et dont je peux vous conseiller la lecture. Il s'agit d'un ouvrage publié au Seuil de Hamadi Redissi, « S'exprimer librement en islam ». D'une part, et puis un autre ouvrage de Dominique Urvoy, je suppose qu'on prononce comme ça, Urvoy, aux éditions Champ Flammarion, qui s'appelle « Les penseurs libres dans l'islam classique ». Et on y trouve notamment des chapitres autour de l'interdit, alors justement sur le développement d'une pensée libre et d'une forme de libre pensée en islam, et puis des chapitres qui portent sur la question de l'image, la représentation d'Allah ou du prophète. Et donc, on n'aura pas le temps d'aller plus loin aujourd'hui, mais je voulais voilà, conseiller aussi ces ouvrages pour avoir, en ce jour où nous enregistrons, une pensée pour Samuel Paty, ce professeur d'histoire géographie qui a été assassiné par un fou furieux fanatique qui a cru, malheureusement, une série de mensonges portés sur les réseaux sociaux.
Quand j'entends le mot culture, je me cale sur RCN. Bah, c'est aussi le rôle d'une radio associative et je pense qu'RCN le fait bien. Moi, par exemple, je pensais, bon, c'est un peu du coq à l'âne, mais je pensais à un poème de Rimbaud. C'est facilement accessible, ça s'appelle « Le feu ». C'est génial de voir ça, c'est le Rimbaud jeune. Hein. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que la guerre, il faut lire des choses comme ça. C'est fantastique. Il explique qu'à l'époque, tous les souverains, en France, en Allemagne et partout, envoyaient en masse les gens se faire exploser uniquement pour le plaisir, hein, à peu près. Quoi. Et lisez ce poème-là, vous verrez, c'est fabuleux.
Mes pages préférées là-dessus, sur la question de la guerre et de la façon dont on utilise la religion pour motiver les hommes à aller à la guerre, c'est le chapitre de Candide de Voltaire où chaque armée avance en chantant son Te Deum pour se massacrer allègrement au son de la musique. Ouais. Et justement, nous allons finir en musique avec une petite messe solennelle de Juliette qui ne célèbre pas le dieu auquel on pense. Je crois que son dieu à lui présente quelques degrés d'alcool. Son dieu à elle, oui, pourquoi je dis à lui. Oui, il me semble qu'elle parle un peu de choses comme ça. À très bientôt.
Oui, à bientôt. Merci de nous avoir
invités. Enfin, nous sommes là, entre nous tous les deux. Seul à seul, tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer. Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Le vin délie la langue, il entr'ouvre le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur au jardin de la braise et cristal du désir. À notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou d'Echeron, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment.
Qu'il soit de Blaye ou d'Echeron, le vin réjouit le cœur de l'homme.
Né d'une âpre Syrah, d'un peu de Carignan, d'une terre solaire, des mains d'un paysan, c'est avec ce vin-là qu'on dit qu'Ulysse a mis le cyclope à genoux et Circé dans son lit. Le vin délie les sens, il entr'ouvre les draps, et pourtant sous sa coupe, je ne mentirai pas, je bois moi pour le goût, mais aussi pour l'ivresse, pour cette nuit d'amour, soyons donc sans sagesse. Les joues vermeilles, les yeux qui brillent, chavirez par de doux émoi. Le vin réjouit le cœur des filles et des garçons, ça va de soi.
Les joues vermeilles, les yeux qui brillent, le vin réjouit le cœur des filles.
Noé sur son raffio en prit quelques futailles, aux noces de Cana, au milieu des ripailles, c'est ce vin que Jésus fit d'une ordinaire, et notons qu'il n'a pas eu l'idée du coup.